Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 24 Khordad, 1401 du calendrier iranien, 14 juin 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran lance un projet pilote de transit entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international Nord-Sud. L'Iran ne quittera pas la table des négociations malgré la résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. La Grèce lève la saisie du navire iranien. Et Damas dénonce le projet d'Ankara de créer une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères critique une fois de plus la résolution anti-iranienne de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA sur ses activités nucléaires. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amiradoulahian, a dit que l'Iran avait accru ses activités nucléaires dans les endroits déclarés dans la résolution de l'Agence nucléaire de l'Organisation des Nations Unies. Il a toutefois souligné que Téhéran ne quitterait pas la table des négociations et poursuivrait ses pourparlers dans le cadre du plan global d'action conjoint. La résolution de l'AIEA accuse l'Iran de ne pas avoir expliqué les traces d'uranium trouvées sur trois sites non déclarés. Amir Abdullahian a fait ses remarques lors de sa conférence de presse avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères. Les deux responsables ont également abordé d'autres dossiers tels que le Yémen, la Palestine et l'Afghanistan. L'Iran a publié la réponse écrite qu'il a présentée à l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, le mois dernier, en réponse aux allégations sur les trois sites nucléaires non déclarés. Dans le document récemment publié, l'Iran précise que les allégations de l'AIEA sont basées sur des informations montées de toutes pièces fournies par Israël en tant que non-membre et manquent donc de crédibilité juridique. Le document a présenté des détails techniques sur les sites présumés. Il reproche également à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'avoir ignoré les clarifications de l'Iran. Téhéran avait envoyé son document avant la réunion de mercredi dernier du Conseil des gouverneurs de l'agence viennoise. Lors de cette réunion, le Conseil des gouverneurs a approuvé une résolution accusant Téhéran de ne pas coopérer de manière adéquate et suffisante avec l'agence. Téhéran a qualifié la résolution de politisée. Lors d'une conférence de presse, lundi 13 juin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « La résolution du Conseil des gouverneurs de l'AIEA était une décision purement politique et préconçue. Certes, nous ne pouvions pas laisser sans réponse cette action politisée et non technique et nous avons pris les mesures nécessaires. La réponse de l'Iran à la résolution a été décisive et proportionnée », a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne. L'Organisation iranienne des ports et de la navigation maritime a annoncé dans un communiqué que le gouvernement grec a levé la saisie du navire iranien. Le communiqué de l'Organisation des ports et de la navigation maritime est le suivant. Avec l'action rapide et autoritaire de la République islamique d'Iran, le suivi des organes compétents et le soutien du ministre iranien du transport et de l'urbanisme, malgré l'ordre des Américains de garder le navire et de saisir ses marchandises, le gouvernement grec a émis l'ordonnance correspondante et nous assistons maintenant à la levée de la saisie du navire et à la restitution de la cargaison à son propriétaire. Le gouvernement grec a récemment arrêté un navire battant pavillon iranien au large des côtes grecques et sa cargaison a été saisie avec la coordination du gouvernement américain, tandis que le navire s'est réfugié au large des côtes grecques pour protéger la sécurité du personnel du navire. Damas a condamné le projet de la Turquie d'établir une soi-disant zone de sécurité dans le nord de la Syrie, le qualifiant d'agression brutale. L'Assemblée du peuple syrien a fait cette remarque dans un communiqué affirmant que le plan de la Turquie vise à provoquer des changements démographiques dans la région. Damas a déclaré que les efforts de la Turquie pour occuper davantage de territoires syriens menace la paix et la sécurité régionale et internationale. Damas a souligné qu'il se réservait le droit d'utiliser tous les moyens pour contrer la présence illégitime des troupes turques ainsi que des groupes terroristes affiliés. Le mois dernier, le président turc a déclaré qu'Ankara prévoyait de créer une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km le long de sa frontière avec la Syrie, une décision que Damas a dénoncée comme un acte honteux. Les forces pro-russes affirment que les bombardements ukrainiens à Donetsk ont tué 5 personnes, dont un enfant. Selon les autorités locales et les médias russes, les frappes ukrainiennes ont visé un marché et un hôpital. 22 autres personnes ont également été blessées. De violents combats font rage dans la région orientale du Donbass. Les forces russes tentaient mardi d'encercler les soldats ukrainiens à Severodonetsk, ville stratégique de l'est de l'Ukraine, mais les forces de Kiev affirmaient tenir bon au 111e jour de la guerre. Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois réclamé des armes modernes aux Occidentaux, évoquant le coût humain terrifiant de la bataille de Severodonetsk. Il est convaincu que ses troupes pourront récupérer le territoire perdu si les alliés occidentaux accélèrent leur livraison d'armes. Entre-temps, l'armée russe a déclaré avoir détruit lundi une importante cache d'armes américaine et européenne à Donetsk. Depuis des semaines, les belligérants se livrent une bataille pour le contrôle de Severodonetsk. La prise de la ville ouvrirait la voie à Moscou pour conquérir pleinement la région du Donbass, principalement pro-russe. Outre le Donbass, des combats font aussi rage dans le sud de l'Ukraine. Dans la nuit de lundi à mardi, le commandement sud des troupes ukrainiennes a signalé des combats aériens et attaques d'hélicoptères russes sur les positions ukrainiennes à Kherson et Mykolaïv. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter le commentaire politique d'aujourd'hui. La République islamique d'Iran lance un projet pilote de transit entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international Nord-Sud. L'organisation iranienne de la navigation maritime a accueilli un transit pilote de fret entre la Russie et l'Inde via le corridor de transport international qui traverse le territoire iranien. Un responsable iranien basé à Astrakhan, en Russie, a déclaré lundi 13 juin que la cargaison contenant deux conteneurs de 40 pieds de produits en bois avait commencé son voyage depuis Saint-Pétersbourg, dans le nord de la Russie, et serait déchargée au port indien de Navacheva via le territoire de la République islamique d'Iran en moins de 25 jours. Dariush Jamali, qui dirige une installation portuaire irano-russe à Astrakhan, sur le littoral nord de la mer Caspienne, a déclaré que la cargaison russe traversera le corridor de transit international nord-sud et arrivera dans le port iranien d'Anzali sur le littoral sud de la mer Caspienne. La cargaison poursuivra son chemin par la voie terrestre en traversant le territoire de la République islamique d'Iran du nord au sud pour arriver au port iranien de Bandar Abbas au détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et la mer d'Oman. Ensuite, elle poursuivra sa route par la voie maritime vers Navacheva en Inde. M. Dariush Jamali a déclaré que c'était la première fois qu'une cargaison voyageait entre la Russie et l'Inde, traversant le territoire de la République islamique d'Iran et le corridor de transport international nord-sud avec un seul document de connaissement direct, TBL, qui permet le transport de marchandises à la fois à l'intérieur des frontières nationales et par expédition internationale. Il a déclaré que le bureau régional de l'organisation iranienne de la navigation maritime en Russie et ses filiales en Inde ont accueilli le transit pilote de ces marchandises pour la première fois via le corridor de transport international nord-sud et le territoire de la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran espère pouvoir bénéficier des droits de transit d'un commerce croissant entre la Russie et l'Inde qui a été causé par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales qui ont suivi contre Moscou. Les responsables iraniens affirment que le transport intégré de marchandises de la Russie et de la Biélorussie vers l'Inde développera les expéditions via le corridor de transport international nord-sud et augmentera les revenus de transit de la République islamique d'Iran. Les experts affirment que l'achèvement de deux liaisons ferroviaires manquantes le long de l'itinéraire du corridor de transport international nord-sud sur le territoire de la République islamique d'Iran augmentera considérablement le transit à travers ce corridor au cours des prochaines années.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la cause anti-impérialiste. En effet, la coopération des pays indépendants, d'où la visite du président Venezuela à Téhéran, profitant de l'expérience iranienne au cours de ces dernières 40 années, donc pour combler les lacunes industrielles malgré toutes les sanctions, de lourdes sanctions à l'encontre de l'Iran. Nous allons également parler du sommet des Amériques où le Venezuela, le Nicaragua et Cuba n'avaient pas été invités, ce qui démontre l'hostilité des États-Unis à l'égard des pays souhaitant l'indépendance politique et industrielle. Alors nous allons profiter des propos des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Selon la politique stratégique de l'Iran, qui consiste en coopération avec des pays indépendants, l'interaction avec Caracas et la création d'un front uni de pays faisant l'objet des mesures punitives adoptées par l'Occident est d'une grande importance. Pour l'expert politique Mohamed Hassan Radili Abione, la visite du président vénézuélien Nicolas Maduro en Iran est devenue l'un des développements les plus importants du pays. Le développement qui a coïncidé avec deux autres événements importants. Premièrement, les tentatives américaines pour imposer un nouveau train de sanctions contre l'Iran en complicité avec l'AIEA et la saisie du pétrolier iranien dans les eaux côtières de la Grèce. Et deuxièmement, l'organisation d'un sommet des dirigeants de l'Amérique latine en l'absence du Venezuela. À l'époque de l'ex-président américain Donald Trump, où le Venezuela subissait la pression américaine la plus intense, c'était l'Iran qui a décidé de voler à son secours et de l'aider à contrer le terrorisme économique américain. Ce que le président vénézuélien a justement salué lors de son interview télévisée avec Hispan TV, remerciant les efforts courageux de l'Iran pour envoyer des ressources d'hydrocarbures au Venezuela malgré les sanctions occidentales. Simultanément, les Américains ont créé pour ces pays une atmosphère telle qu'il ne serait pas possible pour eux de vendre leurs produits d'hydrocarbures, dont le pétrole brut, sans le soutien de la Maison-Blanche. Le journaliste a ensuite fait allusion au sentiment anti-américain des trois pays latino-américains, dont le Venezuela, le Nicaragua et le Cuba, ajoutant par la suite « Dans de telles circonstances, ces nations soutiennent la résistance contre Washington et soutiennent leurs dirigeants fidèles à la cause anti-impérialiste. Les dirigeants de la Maison-Blanche en sont également conscients et cherchent à fournir le terrain à l'arrivée au pouvoir des personnalités à leur solde, dans l'espoir de concrétiser leurs allusions dans la région. » Et d'ajouter, bien que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, il ne dispose pas quand même la possibilité d'exploiter ses richesses énergétiques. L'industrie pétrochimique et la raffinerie au Venezuela n'existaient pas ou étaient très limitées, et allaient plus loin l'auteur en poursuivant. Par conséquent, les États-Unis en abusent pour maintenir la situation actuelle dans laquelle le Venezuela ne puisse vendre ses gisements énergétiques que sous forme brute.
Chers amis, vous regardez l'émission Le Débat. Nous parlons de la cause anti-impérialiste. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
C'est un plaisir partagé toujours de vous retrouver.
Tout le plaisir est pour nous. En attendant de joindre l'autre expert des questions internationales, je vais m'adresser à vous, M. Luc Michel. Alors, M. Michel, nous allons évidemment parler de la visite du président vénézuélien à Téhéran. Nous parlons bien sûr de la coopération parmi des pays souhaitant l'indépendance industrielle et politique qui rend pas très contents les États-Unis. Que pensez-vous?
Écoutez, la visite du président vénézuélien à l'Iran, elle intervient dans un contexte de confrontation internationale. Et on peut dire que dans ce contexte, c'est l'aile latino-américaine du bloc de l'Est qui est revitalisée comme au grand temps de la dernière décennie de l'Union soviétique. Cette visite, elle intervient au moment où le sommet des États américains organisé par Washington a été un échec. Ça a été un échec parce que on n'a pas invité Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, mais aussi parce que le Mexique, au moment où les États-Unis tentent d'intégrer tout le continent nord-américain, le Mexique du président pro-soviétique et pro-russe a boycotté le sommet en raison de cette non-invitation et parce qu'une série de chefs d'État latino-américains ont critiqué à la tribune le discours de Joe Biden. Joe Biden voulait faire de ce sommet une grande intégration, centrer celui-ci sur des thématiques de très hypocrites d'ailleurs, de l'écologie, mais il voulait surtout en faire une tribune anti-russe au moment où éclate le dossier de la Russie, de l'Ukraine et de la Russie. Les États-Unis ont échoué. Il y avait donc les absents, il y avait le boycott, il y avait les critiques de Joe Biden. Mais surtout, celui-ci n'a pas osé aborder à la tribune la thématique anti-russe qui était prévue. Décidément, les États-Unis sont en train de perdre réellement la domination des affaires mondiales. Dans cette affaire, l'axe Téhéran-Caracas apparaît évidemment comme le centre névralgique et stratégique de ce continent latino-américain qui prend sa place dans le front anti-impérialiste. Et c'est une réalité que l'Iran, qui a inventé dès 2006 la guerre hybride avec le Hezbollah au Liban, a importé celle-ci en Amérique latine, aidé le Venezuela à résister à l'impérialisme américain et la déstabilisation. Il y a quelque chose de très important, c'est que cette résistance n'est pas seulement militaire, elle est aussi géoéconomique et industrielle. Et en particulier, l'Iran aide le Venezuela à produire ses propres pétroles. Jusque-là, comme beaucoup de pays producteurs, le Venezuela ne produisait pas le pétrole dont il avait besoin. C'est quelque chose qui se termine. C'est un moment où c'est une thématique centrale, puisque en Afrique également, le Venezuela, l'Algérie et la Syrie, qui est des pays producteurs à produire récent. Il y a quelques jours, c'est la Chine qui commence à construire une centrale de raffinerie à Malabo-Guinée-Équatoriale, qui est un état producteur de gaz et de pétrole, mais qui souffrait de pénurie organisée par les Occidentaux, notamment le Total. Décidément, dans cette contexte où les États-Unis et l'Union européenne voulaient évidemment isoler l'Iran et la Russie, ça va très mal pour eux, parce que c'est l'économie mondiale qui résiste, qui se débouche pour une nouvelle ère économique.
Absolument. Merci, M. Luc Michel. Reste avec nous, je vous prie. Vous avez très bien développé la question. À présent, je vais m'adresser à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à monsieur Luc Michel aussi et à tous les auditeurs.
Et bien alors, la coopération des pays qui souhaitent bien sûr l'indépendance industrielle et politique déplaît bien sûr aux États-Unis et certains pays occidentaux qui ont exercé de lourdes sanctions à l'encontre de beaucoup de pays, en particulier l'Iran et le Venezuela, d'où la visite du président vénézuélien à Téhéran. Alors, l'Iran a su donc faire profiter le Venezuela de ses expériences pour combler les lacunes industrielles. Est-ce que ça a été réussi?
Oui, en effet. Justement, M. Michel, que je salue, a très bien dit que la coopération technique de l'Iran a été décisive, disons, dans la résistance, il n'y a pas d'autre mot, de Venezuela aux emprises américaines. C'est-à-dire une sorte de continuation, si je puis dire, de la fameuse doctrine de Monroe au XIXe siècle, disons, qui voulait que aucun empêché, disons, ce qui est tout à fait utopique, une aide extérieure au continent américain. Ce qui est tout à fait, je répète encore, tout à fait impossible, disons, absurde, surtout quand on voit, par exemple, le développement de l'Amérique latine, par exemple, et de l'Amérique du Sud, pardon, et le rôle, par exemple, qui tient au Brésil en particulier, le Japon et l'Allemagne. Mais cette visite à Téhéran est une consolidation, en effet, de cette politique qui a été suivie pendant, disons, des années. Et elle est en fait, plus qu'une réussite. La réussite est une fois passagère. Mais elle est une promesse d'avenir que les États-Unis, par exemple, entre autres, ne peuvent plus maintenir leur relation avec le Mexique, avec le Venezuela, dans les mêmes termes qu'autrefois. Ils sont obligés de tenir compte, comme a dit M. Michel, justement, de la présence de la Russie, de l'Iran, d'autres pays. C'est un monde différent de celui qu'a connu l'impérialisme jusqu'à présent. Donc il faut que celui-ci s'adapte, et de même que la résistance s'est adaptée aux nouvelles conditions, disons, de vie ou de survie. Bien. Cela n'empêche pas les problèmes intérieurs au Venezuela, mais ça, c'est autre chose. Nous parlons, disons, de la physionomie de cet État relativement, disons, aux exigences de développement interne. Et il ne s'agit pas de s'occuper du Venezuela, il s'agit simplement de comprendre que n'importe quel pays d'Amérique latine aujourd'hui, disons, ne vit plus dans les rêves de possession que l'Amérique formulait déjà, disons, dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Oui. Luc Michel, Pierre d'Ortiguier parle de la résistance face à ces sanctions exercées à la rencontre des pays révolutionnaires tels que l'Iran et le Venezuela et d'autres. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une réussite industrielle pour ces pays-là?
Oui, et on a véritablement maintenant un bloc qui n'est pas seulement géopolitique et militaire, mais qui est un bloc de l'Est, parce que tous ces pays appartiennent au bloc de l'Est, ce qu'on définit sous ce nom-là. Il y a une résistance qui est géoéconomique et industrielle. On constatera d'ailleurs que les États-Unis ont eux-mêmes contribué, avec leurs idiots utiles ouest-européens, à créer une chaîne de résistance. Tous ces pays qui sont soumis aux embargos, Cuba le plus vieux d'entre eux, puisqu'il est sous embargo depuis 1960, l'Iran, le Venezuela, le Nicaragua, etc., et maintenant la Russie. On peut dire la Russie, on peut employer une expression militaire américaine qui est tirée de la grande défaite américaine et anglo-saxonne dans la bataille d'Arnhem en Hollande en 1940. On peut dire que les sanctions contre la Russie, c'est un pont trop loin. Et maintenant les États-Unis essayent de pousser à des sanctions contre la Chine sous le prétexte de Taïwan. C'est tout simplement de la folie. On ne comprend pas la folie des idiots utiles de l'impérialisme américain que sont les dirigeants européens, mais on comprend encore moins la folie de Joe Biden. Voilà ce qui se passe. Les États-Unis sont en train eux-mêmes de détricoter, de détruire leur système d'économie mondiale globalisée. Tous les pays qui sont sous sanctions, ils servent un peu d'axe pour vertébrer la résistance mondiale à une série de pays. Il y a peu d'ailleurs, la Russie, dans le cadre de ses mesures en toute sanction, a garanti la monnaie russe, le rouble, sur la base de l'or. C'est mettre un terme non seulement aux accords de Bretton Woods, mais aux accords qui ont fait du dollar le remplaçant de l'or à partir de 1972. Aujourd'hui, la Chine et l'Iran vont suivre, bien entendu, la Russie dans ce rétablissement d'une forme d'étalon or les États-Unis eux-mêmes ont contribué à stopper, et à stopper la domination mondiale du dollar, la dédollarisation du marché des hydrocarbures et du marché notamment du blé, c'est en train d'être le premier pas vers la dédollarisation de toute l'économie mondiale.
Luc Michel, vous dites que donc plus nombreux deviennent les pays contre les États-Unis ont moins de chances pour aboutir à leurs objectifs néfastes.
Vous avez cité la Russie. Écoutez, on pouvait réussir des sanctions, des embargos, des blocus contre des petits États. Cuba, la Libye pendant 10 ans sous Kadhafi, encore, bien entendu, le Venezuela. C'est déjà moins vrai avec une grande puissance régionale comme l'Iran, qui le démontre chaque jour. Mais mettre sous embargo le plus grand pays du monde, qui est la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale, puisqu'elle a plus de têtes nucléaires que les États-Unis, c'était une folie qui seule pouvait être pensée dans la tête des Américains et des néoconservateurs qui soutiennent le régime, évidemment, de Biden. On a vu, il y a 2 jours, Hillary Clinton donner des leçons au monde, des leçons d'embargo, des leçons d'isolement économique de la Russie, etc. C'est tout simplement de la folie. Et le succès de la Russie dans les contre-sanctions et dans la guerre économique, c'est en train de démontrer que cette folie n'était pas une folie réalisable. Bien entendu, sur les plateaux de télévision des médias de l'OTAN, en particulier en France, on vous explique que la Russie est en train de s'écrouler économiquement, qu'elle est en train de reculer, etc. Tout ça, ce sont des billevesées. L'économie, on a eu un rapport cette semaine de la Banque de Russie. Celle-ci a révélé que la dette extérieure de la Russie était diminuée de 2 milliards et demi de dollars et que tous les jours, les hydrocarbures russes rapportaient 1 milliard à l'économie russe de dollars qui sont injectés dans la guerre ukrainienne. Évidemment, c'est le résultat de la stratégie folle de Joe Biden et des néoconservateurs américains.
Absolument. Pierre d'Ortiguier, comment vous réagissez quand M. Luc Michel parle de la Russie qui se met à côté des pays latinois d'Amérique ou bien l'Iran pour combattre donc anti-impérialiste?
C'est-à-dire, c'est une... savoir que le système impérialiste, par nature...
Malheureusement, M. Pierre d'Ortiguier, nous vous entendons mal. Mes collègues vont essayer de vous rejoindre. En attendant, je m'adresse à M. Luc Michel. Vous voulez bien poursuivre, M. Michel, quand vous parlez de... est-ce que c'est une peur de la part des États-Unis qui essaient de ne pas inviter certains pays pour participer au sommet d'Amérique? Donc, c'est une peur, à vrai dire.
Bien entendu, la stratégie de l'Amérique, c'est d'isoler ses ennemis. On essaye de chasser des Nations Unies, de tous les organismes des Nations Unies, la Russie. On n'invite pas les ennemis des États-Unis en Amérique latine. Et bien entendu, les Américains ont fait la même chose. Vous savez que l'année passée, il y a eu le sommet de la démocratie à Washington. La deuxième édition se tient aujourd'hui à Copenhague, qui est un État vassal des États-Unis. Le secrétaire général de l'OTAN, d'ailleurs, c'est un Danois. À ce sommet, évidemment, on n'invite pas les Chinois, les Russes et les Iraniens et leurs alliés, c'est-à-dire 80% des États et de la population mondiale. La vraie communauté internationale, c'est celle-là, puisque rien que l'Organisation de coopération de Shanghai, avec l'Inde, avec le Pakistan, avec 14 ex-républiques soviétiques, avec Moscou, avec Pékin et avec Téhéran, cela représente la vraie communauté mondiale, 6 milliards d'hommes et de femmes, alors que le bloc américain occidental ne représente qu'un milliard et demi. Voilà donc la stratégie d'isolement des États-Unis. C'est une stratégie évidemment imbécile et suicidaire. La contre-offensive des pays que les États-Unis ont voulu isoler, elle n'aurait dû être que militaire. Au début, évidemment, avec une réaction militaire contre les États-Unis. L'OTAN du Pacifique, quoi, et l'OTAN du Proche-Orient avec Israël. mais en raison de la politique des temps partout et des mondes, les États-Unis ont donné une dimension géo-économique à cette contre-offensive mondiale de ceux qui refusent la politique américaine.
Absolument. Pierre Dortiguier, vous êtes avec nous. Alors, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de M. Luc Michel quand il parle de la peur des États-Unis de faire inviter donc certains pays révolutionnaires dans le Venezuela, le Nicaragua ou bien Cuba, ou dans d'autres projets comme la Chine et la Russie? La plupart, enfin, il a dit que 80% de la communauté internationale, c'est eux, et les États-Unis les évitent. Que pensez-vous?
L'erreur des États-Unis, qui avait été remarquée déjà par le général de Gaulle, par le président de Gaulle chez nous, c'est de confondre un régime politique avec l'esprit national. Un régime politique a ses limites, bien sûr, que ce soit de gauche, de droite, socialiste, capitaliste. Et les limites sont toujours arbitraires. Mais la réalité nationale, elle est antérieure au système économique et postérieure à lui. C'est-à-dire, c'est l'existence d'un peuple et la capacité qu'a la volonté, qu'a un peuple de vivre. C'est justement ce qui avait été découvert chez nous, disons, pendant la courte période où De Gaulle a pu faire une politique étrangère sur son en Amérique latine, qui était remarquable. Nous en avons parlé une fois avec M. Michel. Et aujourd'hui, je trouve que les circonstances, disons, rappellent ce que dit notre président, à savoir que l'hégémonie du dollar n'est plus à l'ordre du jour, que le réveil des peuples d'Amérique latine, entre autres, hein, est une chance pour le monde, et même pour l'indépendance de l'Europe. Car aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus d'indépendance de l'Europe, il y a un alignement sur des consignes données. Je crois que si on veut éviter la guerre, un horizon de guerre futur, il faut développer ce multilatéralisme. L'interalisme ne consiste pas, disons, à faire une guerre froide multipliée, mais à laisser des groupes économiques s'organiser, non pas contre une puissance donnée, mais parallèlement d'autres puissances. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est un monde qu'on dirait, je ne dis pas multipolaire, si on veut, mais un monde fondé sur la variété, multiplicité. Et je crois que cette exigence qui paraît normale, naturelle, est obscurcie par justement des propos de guerre froide, des propos, disons, de où on s'accuse mutuellement de, mettons, de tyrannies, dictatures, etc. Bon, je crois que ce monde est possible car c'est un monde réel, voyez, qui a toujours existé, qui a toujours eu des marchés parallèles, des marchés, disons, distribués dans le monde. Les États-Unis ont prétendu, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, qui était une tyrannie à l'époque, bien sûr, apparaître avec le visage du démocrate. En fait, il y avait des tyrannies partout. Et bon, des tyrannies à divers degrés. Mais la nécessité de survivre et de coopérer entre nations, elle est durable. C'est comme une basse continue en musique, si vous voulez. Voilà. Et dans l'orchestre des nations, il faut en tenir compte.
Oui, absolument. Monsieur Luc Michel, pour terminer, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que les pays anti-impérialistes ne se contentent pas de visites des présidents, fassent un pas très important en organisant des sommets entre eux, avec la présence de la Russie, entre autres?
Je crois que c'est ce qui va arriver. Mais vous savez, la plus grande erreur de Joe Biden, c'est d'avoir ressuscité les blocs idéologiques. Lorsqu'il a défini sa doctrine géopolitique en janvier de l'année passée, il n'a plus seulement fait de la Chine l'adversaire économique principal comme l'avait fait Donald Trump, mais l'adversaire idéologique. Il a essayé d'organiser uniquement avec des puissances occidentales ce sommet de la démocratie qui a eu lieu à Washington et aujourd'hui au Danemark. Mais faisant cela, il a rejeté dans l'autre camp la totalité des autres pays. Quelle est la différence idéologique, évidemment? C'est que Biden le dit lui-même, les États-Unis d'Amérique, c'est l'économie et la démocratie libérale, et les autres pays, ce sont les pays qu'il appelle illibéraux. Le jour où s'est ouvert le premier sommet de la démocratie, la Chine a répondu. Deux universités chinoises ont proposé un document qui s'intitulait 10 questions sur la démocratie américaine. Les Chinois ont dit que la démocratie américaine, ce n'est pas la démocratie. La personne n'a démocratie. Qui est la démocratie de la Russie ou sa démocratie russe, les pays africains également, les pays latino-américains. Aujourd'hui, l'Amérique, elle est contestée militairement, géopolitiquement, mais surtout idéologiquement. Il est bien certain que les pays qui s'opposent à l'Amérique vont, un jour ou l'autre, à une vitesse très rapide, je pense, parce que c'est la volonté de Poutine et de la France, constituer une alternative idéologique. Il appartiendra à la Russie de Poutine d'avoir déclenché les hostilités, puisque la guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement une question régionale qui concerne l'Ukraine et la Russie, mais comme Poutine l'a dit lui-même dès le premier jour, c'est la constitution de nouvel ordre mondial, géopolitique et géoéconomique américain. C'est cela que la Russie est en train d'ébranler. C'est à cela que le bloc de l'Est, avec l'Iran, la Chine, la Russie est en train de mettre un terme. Les États-Unis n'ont pas compris cela. Ils ont cru qu'ils allaient isoler la Russie, alors qu'ils ont donné à son combat dimension mondiale.
Absolument. Luc Michel, eh bien, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Grand mathématicien et philosophe célèbre, Khayyam a passé la majeure partie de son existence à vivre auprès de contemporains qui ignoraient même l'existence de ses quatrains qui le rendent si célèbre aujourd'hui. Connu en Orient pour la rédaction de son traité d'Algèbre et l'invention du calendrier iranien, Khayyam est réputé en Occident pour ses quatrains. Ghiyas-eddin Aboulfat Omar ibn Ibrahim Khayyam Nishaburi est l'un des mathématiciens, astronomes et poètes les plus célèbres d'Iran de l'époque seljoukite. Il était professeur de mathématiques, de littérature, de religion et d'histoire. Le rôle de Khayyam dans la résolution d'équations de degré 3 et ses études sur le cinquième postulat d'Euclide ont fait de lui un mathématicien de premier plan dans l'histoire des sciences. Il a également composé des poèmes en quatrains. Omar Khayyam est né à Nishapur au XIe siècle après Jésus-Christ. Il a appris la jurisprudence à l'âge moyen auprès de l'imam Muafar Nishapuri, a appris le hadith, l'interprétation, la philosophie, la sagesse et l'astronomie. Certains ont écrit qu'il a appris la philosophie directement de la langue grecque. Khayyam serait mort entre 502 et 505, début du XIIe siècle après Jésus-Christ, à Nishapur, ville dans laquelle se trouve aujourd'hui encore son tombeau en plein cœur d'un jardin. Certains biographes ont appelé Khayyam disciple d'Avicenne et d'autres l'ont appelé disciple d'Imam Mafarneh Shaburi. L'hypothèse qui présente Khayyam comme un disciple d'Avicenne ne semble pas valable car ces deux grands penseurs iraniens vivaient à deux époques différentes. George Sarton, le père de l'histoire des sciences, considère Khayyam comme l'un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge et dit sur cette base « Khayyam est celui qui a fait des recherches scientifiques régulières sur les équations du premier, deuxième et troisième degré et a donné une classification admirable de ces équations. Il a été un chercheur régulier dans la résolution de toutes les formes d'équations de degré 3 et a réussi à les résoudre géométriquement. Son traité d'algèbre qui comprend cette recherche représente une pensée scientifique systématique et est l'une des œuvres les plus importantes du Moyen-Âge et probablement la plus importante de cette science. Il a été le premier à montrer que l'équation de degré 3 peut avoir plus d'une réponse ou aucune réponse du tout. Khayyam a été le premier à mettre au point une technique pour résoudre les équations de degré 3 en ayant recours aux dessins géométriques basés sur les coniques plutôt que de les convertir en équations de degré 2. Le deuxième traité de Khayyam est appelé « Commentaire sur les difficultés de certains postulats du livre d'Euclide ». Dans ce livre, il a étudié les principes de la géométrie euclidienne, en particulier le principe du théorème des droites parallèles et le fondement de la géométrie euclidienne. Par ailleurs, il a prouvé le cinquième postulat d'Euclide. Le seul exemplaire complet du livre se trouve à la bibliothèque de Leiden aux Pays-Bas. Dans ce livre, Khayyam doutait des principes de la géométrie euclidienne qui avaient été des manuels scolaires dans le monde entier pendant des centaines d'années. Et plus de 700 ans plus tard, la méthode de Khayyam est devenue la base des études du mathématicien russe Nikolai Lobachevsky dans la construction de la géométrie non euclidienne. Einstein a ensuite utilisé cette méthode. L'un de ses ouvrages est le traité problème d'arithmétique cité par ses successeurs et qui devait contenir des méthodes des binômes et de calculs approchés de racines nièmes. Khayyam a également travaillé sur la théorie mathématique de la musique en décrivant la méthode d'extraction des degrés des entiers relatifs. Dans son livre intitulé « Discours sur les types d'écart sur la théorie de la musique », Khayyam a procédé à une analyse mathématique de la musique du problème de la division de quart d'une gamme à trois intervalles dans un système régulier. Plutôt que pour son important traité sur l'algèbre, Khayyam était davantage connu en Orient comme l'astronome qui a réformé le calendrier solaire iranien. Pendant le règne de la dynastie Seljoukide et à l'époque du chancelier de Hoxha Nezamulmulk, Khayyam Nishaburi a été chargé de travailler avec un groupe d'éminents astronomes sur de nouveaux calculs liés au calendrier iranien. En 1074, il a demandé au roi la construction d'un observatoire à Ispahan. À la tête d'un corps scientifique, il réussit à accomplir sa réforme dite Jalali, autrement dit, faire le décompte des jours de l'année solaire et introduire l'année bissextile dans ses calculs. En 1079, après la chute de la dynastie sassanide, le calendrier utilisé à l'époque devint caduc. Aujourd'hui, Khayyam est connu comme poète, mathématicien, astronome. Ses influences sur les écrivains de la littérature occidentale tels que Mark Twain et T.S. Eliot ont fait de lui un symbole de la philosophie orientale et un poète populaire des intellectuels du monde. Alors que plus de quelques milliers de quatrains ont été attribués à Khayyam, le nombre réel des quatrains est d'environ 70. Il s'agit des poèmes avec des thèmes souvent philosophiques qui sont très célèbres en langue persane.
«
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.